Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Présenté par Francis Laloupeau.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'actualité sur nos deux radios partenaires. Je vous présenterai cette édition sans Liliane Niacha, en mission pour la bonne cause en Mauritanie où se tient actuellement le 31e sommet de l'Union africaine. On la retrouvera bien sûr la semaine prochaine avec les résultats de cette noble mission. Au sommaire de cette édition, l'actualité comorienne dominée par un projet de réforme constitutionnelle qui devrait permettre au président Azali Assoumani, élu en 2016 pour un mandat non renouvelable de 5 ans, de se porter de nouveau candidat lors d'élections anticipées en 2019. Un projet contesté par l'opposition qui réclame le rétablissement des institutions démocratiques. Explication dans cette édition avec nos invités. Autre sujet, nouvel épisode de la crise en cours au Togo où une timide reprise du dialogue politique a été observé cette semaine sous l'égide des chefs d'État du Ghana et de la Guinée, médiateurs de la CEDEAO. Peut-on encore éviter l'enlisement de cette crise déclenchée en août dernier? Nous en parlerons dans cette édition, bien sûr, avec nos invités. Enfin, l'actualité au Zimbabwe, dominée cette semaine par un attentat le 23 juin dernier lors d'un meeting politique à la fin d'un discours du président Emmerson Mnangagwa devant des milliers de partisans réunis dans un stade de Bulawayo. Quels sont les coupables présumés d'un tel acte dont le mode opératoire est quasiment inédit dans l'histoire politique de ce pays? Décryptage avec nos invités, voilà pour le sommaire. Notre grand témoin dans cette édition, au téléphone depuis Moroni, Madi Ali, porte-parole de l'opposition aux Comores. Madi Ali, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Lomé, Ferdinand Haïté, directeur de la publication du journal L'Alternative. Ferdinand Haïté, bonjour.
Bonjour, Francis Laloupeau.
Comme de coutume, une petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, Madi Ali. Vous êtes depuis 2016 l'un des porte-parole de l'opposition aux Comores. Après avoir occupé un poste d'enseignant pendant 17 ans, vous avez été plusieurs fois ministre, notamment au département de la justice, de la communication, de la fonction publique ou encore des affaires islamiques. Vous avez été par ailleurs le directeur de cabinet chargé de la défense et conseiller privé du chef de l'État, Ikki Lilou Douanine. Madi Ali, vous serez notre grand témoin dans cette édition des débats BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Premier sujet donc, le référendum de toutes les colères aux Comores. Début juin, ils étaient des milliers à manifester dans plusieurs villes des Comores pour dénoncer la tenue d'un référendum annoncé fin juillet prochain. Un projet de référendum initié par le président Azali Assoumani, élu en 2016 pour un mandat non renouvelable de 5 ans. Un projet contesté par l'opposition qui réclame le rétablissement des institutions démocratiques. Et nous allons tenter donc de comprendre les tenants et aboutissants de ce qui ressemble à un début de crise politique aux Comores, un contentieux politique en tout cas. Madi Ali, alors, selon le pouvoir, cette réforme constitutionnelle devrait permettre, je cite, de modifier l'organisation des pouvoirs publics afin d'assurer la stabilité et le développement du pays. Pourquoi vous contestez ce projet de réforme précisément?
Et tout d'abord, avant de répondre à cette question, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité à ce débat. Et vous devez savoir, je dois vous informer que les Comores avaient connu 10 ans de crise séparatiste. Il y a une île qui s'appelle Anjouan. Ils voulaient être indépendants ou se rattacher à la France.
Oui.
Donc, après des conférences à Addis Abeba et Antananarivo, on s'est mis d'accord pour la mise en place d'une constitution qui a effectivement mis en place une présidence tournante.
C'était en 2001.
Donc, les Comores sont...
C'était bien en 2001.
C'était en 2001.
C'est ça.
En 2001. Les Comores sont composés de 4 îles, dont la 4e est sous administration française.
Mayotte.
Et les trois îles sont indépendantes. Mmh. Donc nous sommes mis d'accord pour que la présidente soit tournante d'une île à une autre pour un mandat de 5 ans.
Tous les 5 ans, oui.
Et puis nous avons organisé des élections en 2016. Nous avons mis en place l'actuel président, Azali Assoumani, qui avait fait 7 ans avant. Mmh. Et il est retourné pour être président. Mais depuis son investiture...
À son actif, il faut dire également que c'est un ancien putschiste quand même, hein.
Oui, c'est un ancien
c'est ça,
Il avait fait un coup d'État, il a renversé le président de l'époque.
C'est ça, mais puis, il est revenu par les urnes.
Depuis son installation, depuis son investiture en 2016, il a commencé à violer la loi. Il a commencé par annuler une loi, mise en place une commission anticorruption.
Oui.
Il a violé aussi une loi relative à la passation de marché, il a violé une loi relative à la Commission des droits de l'homme. Et puis, dernièrement, il a mis en veilleuse la Cour constitutionnelle, dont la première mission, c'est l'organisation des élections.
Oui.
Il a transféré les compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Chose bizarre, parce que la Cour suprême n'a pas la compétence, n'a ses compétences, n'a
Oui.
pas les compétences de la Cour constitutionnelle.
Oui.
Donc, au début, cette violation flagrante de la Constitution, l'union de l'opposition a commencé déjà à crier. Et puis, quand nous avons commencé à crier,
Attendez,
à vouloir
attendez, juste
cette
un instant,
compétence.
Madi Ali. Tout ce que vous avez cité là comme
Oui.
infraction, évidemment, est-ce que c'est un homme seul qui peut prendre cette décision? Est-ce que c'est le président tout seul qui prend ce genre de décision? Ou alors, il est entouré de conseillers? Est-ce que les forces politiques sont consultées?
Non, non, tout d'abord, il y a la violation des différentes lois.
Oui.
Un décret ne peut pas annuler une loi quand même.
Oui.
Mais ensuite, il n'y en a pas de dispositions constitutionnelles qui montrent que les compétences de la Cour constitutionnelle peuvent être transférées ailleurs. Ce n'est pas possible. Mais le président, bien sûr, il a le droit d'organiser un référendum, mais il a des préalables. Parmi les préalables, il doit consulter le constitutionnel qui l'a veilleuse, il doit consulter le président de l'Assemblée, il doit consulter le conseil des ministres.
C'est ça.
Et ceci n'est pas fait. De
Oui.
toute façon, il n'aurait dû pas consulter la Cour constitutionnelle qui l'a déjà éliminée. Et puis ensuite, les violations aussi des libertés. Vous savez que les libertés fondamentales sont bien sûr constitutionnelles. C'est
Oui.
le préambule de la Constitution qui a montré ceci, les libertés constitutionnelles. Les libertés fondamentales, les libertés d'expression, les libertés de circulation, les libertés de réunion. Il a commencé à fermer certains postes radio, il a commencé à réprimer des journalistes, il interdit aux opposants de s'exprimer dans les différents organes d'expression.
Oui.
Il commence déjà à. Même la société civile n'a pas le droit à s'exprimer, n'a pas le droit de manifester. L'union des syndicats ont voulu manifester contre une décision prise par le président, mais on les a empêchés de s'exprimer.
Oui.
Actuellement, nous avons certaines autorités politiques qui sont en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu manifester. Et parmi ces autorités politiques, il y a un qui est tabassé, qui a subi deux opérations chirurgicales la nuit de son arrestation.
D'accord.
Donc, nous avons continué à riposter. D'ailleurs, nous avons envoyé une délégation à Addis Abeba et cette délégation a rencontré les différentes instances de l'Union africaine, ce
Oui.
qui a fait que la semaine passée, il y avait une délégation conjointe de
Oui.
l'Union africaine, de l'Union européenne, mais aussi des Nations unies qui sont venues aux Comores pour exactement écouter tout le monde. Ils ont écouté le gouvernement, ils ont écouté le président, ils ont entendu la société civile,
Et
ils ont
quel
entendu tout le monde. D'ailleurs,
était le résultat de cette
actuellement,
médiation?
bon, c'est un émissaire qui est envoyé, il est retourné faire le rapport. Et
Oui.
d'ailleurs, pendant le prochain sommet de l'Union africaine,
Oui.
il y aura exactement le problème des Comores. Le problème des Comores sera posé.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui,
D'ailleurs, vous devez savoir.
est-ce que très clairement aujourd'hui on assiste à une crise politique aux Comores?
Absolument.
Oui.
Absolument. Il y a le président est élu, c'est un ticket. Il y a le président, il y a trois vice-présidents.
Oui.
Un des trois vice-présidents de la Grande Comore, qui est aussi un magistrat,
Oui.
il s'est exprimé récemment, c'était le 17 ou 18 juin. Il s'est exprimé publiquement dans une grande rencontre organisée par le gouverneur de la Grande Comore et il a annoncé à tout le monde qu'il n'est pas d'accord de cette réforme parce que cette réforme risque de disloquer le pays.
C'est ça.
Vous savez que l'île d'Anjouan attend son tour en 2021.
Oui.
L'île de Moélie, qui est la petite île, attend son tour en
Ben
2026.
oui.
Donc, ces deux îles ne sont pas d'accord pour la réforme.
Alors
Et là,
justement, m'a dit Ali, pour que les auditeurs suivent très
Oui.
bien, alors cette réforme des institutions pourrait entraîner, selon la présidence elle-même, la tenue d'élections anticipées en 2019, y compris une élection présidentielle à laquelle il semble que le président Azali Assoumani souhaite participer en tant que candidat. Cela signifie donc que si cette réforme était engagée, si ce référendum avait lieu, c'est toute l'architecture institutionnelle qui a été mise en place en 2001 qui exploserait, c'est ça?
Exactement, exactement. Il veut mettre en cause un accord signé par les autorités de l'époque à la présence de l'Union africaine et de la francophonie. Et encore des accords qui ont mis fin à une crise qui a duré 10 ans.
Oui.
Parce que vous savez très bien que l'île d'où vient le chef de l'État, c'est la Grande Île.
Oui.
Donc cette Grande Île est taxée par les autres îles que c'est cette île qui s'accapare de tous les pouvoirs.
Oui.
D'ailleurs, la petite île qui s'appelle Moeli n'a eu une présidence qu'après la mise en place de ce nouvel ensemble comorien.
D'accord.
Cet ensemble qui a permis à la petite île de briguer un mandat présidentiel. D'ailleurs, c'est lui qui vient d'achever son pouvoir la fois passée. Donc, nous craignons que cette réforme, et encore, il n'y en a pas un large consensus.
Oui.
Tout le monde n'est pas d'accord parce que nous voyons que l'expérience de ce mascarade de référendum,
oui,
c'est absolument une nouvelle crise qui va pousser les,
oui,
deux autres îles soit à proclamer une indépendance,
oui,
ou de toute façon, il y a une crise qui s'approche, une crise qui sera difficile à supporter. Mmh.
Alors, évidemment, quand on vous écoute, vous avez dit à l'instant, voilà, tout le monde n'est pas d'accord, ça signifie quand même que certains sont d'accord, et je vous ai posé tout à l'heure une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Est-ce que les forces politiques, aussi bien du pouvoir comme de l'opposition, ont été consultées pour cette initiative? Est-ce que l'opposition a été au moins consultée, Madi Ali? Bon, on va se tourner. Alors, il y a un souci, évidemment, avec le téléphone. On va essayer de rappeler Madi Ali. On va écouter notre confrère Ferdinand Haïté. Ferdinand Haïté, vous êtes avec nous depuis Lomé. Et quelle réflexion vous inspire, hein, cette crise qui monte aux Comores? Et évidemment, crise provoquée par cette initiative présidentielle de modifier la Constitution, de changer les règles du jeu qui ont été mises en place, les règles du jeu institutionnel qui ont été mises en place depuis 2001 pour les trois îles des Comores.
Merci Francis, merci pour l'invitation. Les Comores sont déjà habitués à une longue tradition de crise. Et cette crise, une crise qui a été mise fin en 2001, comme on vient de le rappeler. Mais là, visiblement, nous sommes en face d'un référendum ou des réformes controversées, et de la volonté d'un ancien ministre qui n'a pas perdu ses réflexes, de vouloir modifier les règles du jeu pour continuer par... être au pouvoir le plus longtemps possible. Alors, à partir du moment où le contrat qui lie les quatre îles ou les trois îles est rompu par un seul individu, il y a des craintes qu'on aille vers une dislocation ou une instabilité, comme on en a connu par le passé. Alors, ce qu'on peut demander aujourd'hui, c'est que ces missions de bons offices qui sont en train de se dépêcher aux Comores, notamment l'Union africaine, les Nations unies, puissent appeler les uns les autres à la raison et demander au président actuel de respecter les dispositions de l'accord de 2001 qui permet une présidence tournante afin de préserver cette île d'une instabilité qui pourrait affecter l'ensemble de la région. Donc je pense que cette réforme n'est pas, de mon point de vue, utile aujourd'hui.
Oui.
Il faut juste respecter les institutions de la République, ce qui a été décidé de commun accord. Il faut respecter et laisser continuer la présidence tournante. Le mal de l'Afrique est peut-être parfois au-delà, c'est cette volonté de certains, une fois qu'ils sont au pouvoir, de modifier les règles constitutionnelles pour pouvoir garder le pouvoir le plus longtemps possible. Et malheureusement, les Comores ne sont pas encore sortis de cette longue tradition de poutier à la fois militaire et constitutionnelle.
L'affaire est d'autant plus compliquée que c'est une convention institutionnelle qui a été mise en place entre ces trois îles, évidemment. Et les trois îles sont solidaires, je dirais, de cette institution. Est-ce qu'il est possible qu'un seul homme décide comme ça, je dirais, de remettre en cause ces règles du jeu? Évidemment, la question est beaucoup plus complexe aux Comores. Madi Ali, on l'a retrouvé, un porte-parole de l'opposition aux Comores, notre grand témoin, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez répondre rapidement à cette question que je vous posais? Pour prendre cette initiative, est-ce que le président a pris au moins, je dirais, la peine, si je puis dire, hein, de consulter certaines forces politiques, aussi bien du pouvoir que de l'opposition?
Seuls les partis de la mouvance présidentielle sont d'accord pour cette réforme.
Oui.
Mais les partis de l'opposition la société civile ne sont pas d'accord parce qu'on sent...
Mais la question n'était pas de savoir si elles, étaient, si elles ne sont pas d'accord ou pas. Est-ce qu'elles ont été au moins consultées pour la forme, formellement?
Non, mais il aurait dû être... Il y avait une consultation, mais cette consultation était masquée. D'accord. Donc, nous n'avons pas répondu à l'appel parce qu'il y a une commission qui a été mise en place pour cette consultation, mais ils ont truqué. De toute façon, vous savez très bien que on ne peut pas organiser des élections sans le juge électoral qui est la Cour constitutionnelle.
Oui.
Donc, nous demandons, les partis de l'opposition, la société civile, demandent le rétablissement constitutionnel.
C'est ça, oui.
Il faut absolument que le juge électoral soit mis en place avant qu'une telle décision soit prise.
D'accord.
Sinon, comment, qui va juger? Parce que la Cour constitutionnelle est composée par 8 membres et ces 8 membres sont désignés par 8 autorités. Il y a le représentant du président, le représentant des 3 vice-présidents, les 3 représentants des 3 gouverneurs et le représentant de l'Assemblée. Mmh. Alors que la Cour suprême, tous les membres de la Cour suprême sont nommés uniquement par le chef de l'État. Donc nous voyons que le chef de l'État, il veut aussi prendre les pouvoirs de ses pairs, c'est-à-dire des vice-présidents, des gouverneurs et du président de l'Assemblée.
Oui.
C'est pas possible. Donc nous demandons que le rétablissement, qu'il y ait rétablissement constitutionnel, constitutionnel soit mise en place avant toute consultation.
Mais est-ce que,
mais aussi,
au-delà de cette revendication, est-ce que vous rejetez très clairement la tenue de ce référendum prévu fin juillet ou pas?
Nous rejetons la tenue de ce référendum parce que le président, il a le droit d'organiser un référendum, mais il a des préalables. Et parmi les préalables, avant la convocation du collège électoral, le décret, la loi référendaire doit être annexée.
Oui.
Ça fait déjà un mois et demi qu'il a convoqué le collège électoral, mais on ignore exactement la réforme en question.
Oui.
Mais aussi,
d'accord,
il faut absolument qu'il y ait le juge constitutionnel, le juge électoral, avant qu'il y ait une consultation.
Est-ce qu'il faut comprendre que vous ne rejetez pas le principe même du référendum?
Non.
Parce que voilà,
le référendum,
le président
de la République a le droit d'organiser un référendum.
Oui, mais vous pouvez accepter ce référendum ou le rejeter. Est-ce que vous acceptez le principe de ce référendum pour fin juillet prochain ou pas?
Puisque le référendum, puisque le processus le processus n'a pas respecté la règle, nous le rejetons.
Vous
nous rejetons le référendum. D'ailleurs, je vous ai dit qu'un de ses vice-présidents, il rejette la réforme. Un de ses vice-présidents est un vice-président qui est en exercice. Nous avons 3 gouverneurs, les 2 gouverneurs, le gouverneur de la Grande Comore et le gouverneur d'Anjou rejettent aussi la réforme. Donc c'est pas seulement les partis d'opposition, même les autorités étatiques rejettent aussi cette consultation parce que il y a un danger, c'est que les conséquences de cette consultation, c'est exactement la dislocation de notre République.
On comprend bien. Ferdinand Haïté, est-ce que les termes du contentieux vous semblent très clairs?
Pardon?
Est-ce que les termes du contentieux vous semblent très clairs?
Oui, les termes sont clairs. C'est une volonté manifeste du président actuel de modifier les règles du jeu. Je rappelle quand même que le référendum n'est pas une élection comme une élection ordinaire. Un référendum constitutionnel, c'est quand même quelque chose qui doit unifier le pays, qui doit permettre de rassembler tous les citoyens du pays. C'est vrai qu'il n'y aura pas une unanimité, mais il y aura au moins un large consensus.
Autour de la question du référendum.
Tout à fait. Mais lorsque le référendum devient maintenant un élément du pays, je pense qu'il faut craindre le pire. Donc, notre âge vient de le rappeler, M. Ali, que le président peut prendre l'initiative d'un référendum. La loi le permet au commun.
Oui. Ah, Ferdinand Haïté aussi, on l'a perdu, Ferdinand Haïté, entre-temps. Ce n'est pas grave, on va essayer de le retrouver. On va marquer en attendant une pause à ce stade du débat. Et on reviendra juste après pour reprendre le cours du débat. On reviendra évidemment sur l'actualité comorienne pour essayer de comprendre les tenants et aboutissants de cette crise qui monte aux Comores. Ne partez pas, à tout de suite.
Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique.
Avec notre grand témoin invité depuis Moroni aux Comores, au téléphone Madi Ali, porte-parole de l'opposition aux Comores. Notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Lomé, Ferdinand Haïté, directeur de la publication du journal L'Alternative. Mahdi Ali, alors vous l'avez dit tout à l'heure, hein, plusieurs responsables politiques de l'opposition ont été arrêtés, notamment le 22 juin dernier, au moment où commençait une marche de protestation contre ce que ses opposants qualifient de dérive dictatoriale du président Azali. On signale d'ailleurs d'autres actes d'intimidation et même des assignations à résidence de certaines personnalités de l'opposition. On voit bien que le président Azali Assoumani semble opter pour un rapport de force tendu entre lui et l'opposition. Jusqu'où peut aller l'opposition dans ce qui ressemble donc à une crise politique, je ne dirais pas majeure, en tout cas une crise politique plutôt sérieuse dans votre pays?
Vous savez, c'est pas pour la première fois que les partis d'opposition connaissent des trucs pareils.
Oui.
Mais l'opposition est déterminée. Nous avons des autorités politiques qui sont mises en résidence surveillée. Il y a des autorités politiques qui sont
oui.
condamnées avec sursis, 12 mois avec sursis.
Oui.
Il y a aussi 400 en prison pour le moment, mais cela ne nous empêche de continuer le combat. Vous savez très bien que les Comores, c'est un pays aguerri. Hein.
Mmh.
Nous avons lutté contre le mercenariat, nous avons lutté contre des dictateurs, mais ça c'est un combat que nous connaissons déjà.
Oui.
Personne ne peut nous intimider. Nous allons continuer toujours notre combat parce
oui.
qu'il faut absolument que la démocratie puisse rayonner dans notre pays.
Mmh.
Nous avons vécu 10 ans de paix. C'est que pendant le mandat du président Sambi et pendant le mandat du président Kililou, c'est deux mandats successifs où il n'avait pas de problème.
Oui.
Mais vous savez que le président Azali, il est venu au pouvoir premièrement par un coup d'État. Donc je crois qu'il rêve qu'il peut toujours continuer ainsi.
Oui.
Alors que cette fois-ci, il a pris le pouvoir par les urnes, mais par la force.
Mmh.
Je ne sais pas pourquoi il veut toujours se sentir le colonel ou le chef d'état-major des armées. Non, nous ne pouvons pas accepter.
Vous voulez dire que le président Azali retrouve des réflexes de putschiste aujourd'hui?
Les mercenaires,
oui.
Je crois qu'il ne peut pas nous intimider.
Vous voulez dire qu'il retrouve aujourd'hui des réflexes de putschiste? C'est un peu cela, ce rapport de force qu'il engage avec l'opposition?
Comment?
Vous voulez dire qu'il retrouve aujourd'hui, le président Azali, des réflexes de putschiste, c'est ça?
Absolument, il rêve quand il était président putschiste. Mais il doit savoir que pour le moment, il est élu, il est mis en place par les urnes.
Mmh.
Et bien sûr, c'est la population qui l'a choisi. Donc, de toute façon, pour le moment, je ne crois pas qu'il a déjà 7% de d'opinion.
Mmh.
Il a perdu presque tous ses partisans. Je vous ai dit qu'il y a un des vice-présidents qui est contre deux gouverneurs qui sont contre. Je crois que même ses proches collaborateurs ne sont pas d'accord. Et il y a aussi un ministre qui se prononcera dans les jours à venir.
C'est ça.
C'est très fort.
Mahdi Ali, alors cette crise intervient dans un contexte de tension entre Paris et Moroni dans le cadre du dossier Mahorais. Alors, est-ce que ce dossier, cette affaire du référendum ne risque pas de fragiliser diplomatiquement l'État comorien face aux autorités françaises?
De toute façon, nous, opinion publique, nous ne mélangeons pas les choses.
Oui.
Il y a un contentieux qui dure 42 ans, qui dure 43 ans, entre la France et les Comores,
oui.
et la France est un pays ami,
oui.
jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est un autre problème. Il y a le problème interne. Donc, nous, opinion, nous, partis d'opposition, nous ne mélangeons pas ça.
Oui.
La diplomatie comorienne doit jouer son rôle.
Oui.
Et les partis d'opposition jouent leur rôle.
Oui.
Et le gouvernement doit jouer son rôle. Nous, en tant que partis politiques, nous ne mélangeons pas ces deux.
Vous ne mélangez pas, mais pourtant, on sait bien que ce contentieux entre Paris et Moroni est devenu beaucoup plus sérieux depuis quelques semaines, depuis que les Comores ont interdit aux bateaux ramenant des Comoriens qui avaient tenté d'émigrer vers Mayotte. Et ces bateaux d'aujourd'hui ne peuvent plus accoster aux Comores, interdits d'accoster en tout cas par le gouvernement, par l'État comorien. Alors, il y a une crise évidemment entre Paris et Moroni. Il y a des négociations en cours, donc la diplomatie est à l'œuvre. Est-ce que aujourd'hui, avec une crise comme celle-là, la crise portant sur la réforme constitutionnelle, Moroni est suffisamment armé diplomatiquement? Est-ce que vous faites confiance à l'État comorien pour engager, je dirais, cette négociation diplomatique avec Paris?
Ah, bah, de toute façon, c'est le gouvernement qui a cette compétence. Vous
Oui.
savez très bien que la diplomatie, c'est un pouvoir exclusif du chef de l'État.
Oui.
C'est à lui de prendre ses responsabilités. De toute façon, il ne nous a pas consultés, il ne nous a pas demandé notre avis. Donc, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. S'il fait échec, tant pis pour lui, hein. De toute façon, nous, partis d'opposition, nous ne mélangeons pas ces deux problèmes. Il y a un problème qui dure 43 ans, il y a un problème qui a failli, disons, pousser le pays à disparaître. Donc, je crois que ce problème de référendum, ce problème de réforme est plus délicat que l'autre. Parce que l'autre, de toute façon, pas pour la première fois que l'État comorien prenne des mesures pareilles.
Oui.
Mais vous savez, hein, ce problème était toujours résolu par le dialogue.
Oui.
Ah, par le dialogue, de toute façon, nous, État comorien, nous privilégions le dialogue avec la France, puisque nous n'avons pas d'autre moyen
Oui.
de trouver une solution que le dialogue. C'est le dialogue que nous privilégions, que ce soit le gouvernement ou que ce soit les partis politiques de l'opposition, de pouvoir. Il faut absolument qu'on s'assoie autour d'une table pour discuter de ce problème.
Est-ce qu'on peut dire, pour terminer sur ce dossier, Mahoret, qu'il y a un consensus national de toutes les forces politiques comoriennes face, comment dire, face à la France?
Bien sûr, il faut absolument qu'on s'assoie autour d'une table. Mais comme je vous ai dit, le gouvernement ne nous a pas consultés. S'il avait consulté le côté opposition, nous aurions dû nous donner notre point de vue, mais il ne nous a pas consultés. Mais nous voyons que nous n'avons pas d'autre alternative que le dialogue. Il faut absolument qu'on s'assoie autour d'une table avec la France pour discuter de ce problème, puisque la France est un pays ami, et la France aussi, nous avons plus de 300 000 Comoriens en France. Donc, nous ne pouvons que s'asseoir autour de table pour trouver une solution.
Alors, pour terminer sur cette actualité comorienne, Madi Ali, comment voyez-vous la crise évoluer au cours des prochaines semaines? C'est vrai, vous avez évoqué le sommet de l'Union africaine qui se tient en Mauritanie ce week-end. C'est l'occasion peut-être de discuter du dossier comorien, mais au-delà, je dirais, de ces médiations, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, un dialogue pourrait s'instaurer entre les forces de l'opposition et le pouvoir du président Azali?
De toute façon, l'opposition est prête, hein. L'opposition est prête à un dialogue, bien sûr, puisque nous voulons que vient de notre côté, il est prêt à nous autour d'une table avec trouver une solution. Mais ce que nous voulons, c'est d'éviter une
Ah.
conflit. Nous ne devons pas toujours faire les mêmes erreurs qui fait qu'un juin a voulu se séparer
D'accord.
des autres en voulant des réponses ou bien en voulant se rattacher
La
à son.
ligne se dégrade, m'a dit Ali. On va passer à un deuxième sujet dans cette édition. En attendant, ce serait bien que vous raccrochiez, on va vous rappeler, hein. Mais on passe tout de suite à un deuxième sujet, le Togo, tout de suite.
Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique.
Avec notre grand témoin invité dans cette édition, au téléphone depuis Moroni, Madi Ali, porte-parole de l'opposition aux Comores. Et notre confrère invité dans cette édition, au téléphone depuis Lomé, au Togo, Ferdinand Haïté, directeur de la publication du journal L'Alternative, édité à Lomé. On va justement se rendre à Lomé tout de suite pour parler de cette timide reprise du dialogue politique. C'était mercredi dernier, le président de la Guinée et Conakry et du Ghana Alpha Condé et Nana Akufo-Addo, médiateur de la CEDEAO dans la crise en cours au Togo, ont pu rencontrer dans la capitale Lomé les représentants du pouvoir et de l'opposition. L'enjeu a mené les deux parties à négocier des concessions nécessaires à la reprise d'un dialogue et à la décrispation du climat politique. Un enjeu de taille au regard de certaines positions irréconciliables des différents protagonistes de cette crise déclenchée en août dernier à l'horizon. Les élections législatives prévues pour novembre 2018 et dont le sort dépendra, bien sûr, de l'issue des pourparlers entre pouvoir et opposition. Première question pour vous, bien entendu, Ferdinand Haïté, vous êtes à Lomé. Dans quel climat, hein, les deux parties se sont retrouvées cette semaine? Ou alors, elles ne se sont pas retrouvées du tout. Il y a eu les médiateurs, évidemment, qui ont retrouvé les deux parties, les représentants des deux parties en conflit. Que faut-il attendre de ce qui ressemble à une très timide reprise du dialogue suspendu depuis plusieurs semaines?
Merci. Bien évidemment, les deux parties ne se sont pas retrouvées. Ils se sont retrouvés seulement avec, ils se sont retrouvés avec les médiateurs qui ont consulté séparément les deux camps.
C'est
Donc
ça.
chacun a avancé ses propositions. Et à l'issue de ces consultations, un communiqué a été rendu public Mais les sujets de fond n'ont pas été véritablement abordés, puisque dans le communiqué, il est clairement dit que les questions de fond feront l'objet d'un rapport au chef d'État de la conférence de la CEDEAO, la CEDEAO qui tiendra un sommet à Lomé ici le 31 juillet. Et ce sommet, et donc ce rapport permettra de définir une feuille de route qui sera soumise aux différents acteurs. Globalement, il faut dire que depuis quelques mois, on était totalement dans l'impasse à cause des positions tranchées des deux camps, le pouvoir et la coalition des 14 partis, malgré les efforts du président Gané Nana Addo. Oui. Et puis après, le président Gané a été renforcé dans son initiative par le président guinéen à l'issue d'une conférence de la CEDEAO, une mini-conférence à Lomé. Donc c'est la première fois qu'ils viennent ensemble les deux pour prendre le pouls de la situation. Et donc ce qu'on peut retenir globalement de ce qui s'est passé ce mercredi à Lomé, à travers ce communiqué qui a été rendu public, c'est le résumé de ces pourparlers séparés, à savoir il faut laisser l'opposition désormais manifester tranquillement dans le pays, mais des manifestations qui respectent la loi, et il faut libérer les prisonniers politiques, ceux qui ont été arrêtés depuis les dernières manifestations. Il faut lever l'état de siège dans les villes de l'intérieur. Le Parlement reste en place jusqu'aux prochaines élections.
Le Parlement dont le mandat arrive à terme en principe le 19 août, hein.
Tout à fait. Mais l'article 54 de la Constitution togolaise permet au Parlement de rester en place. Et puis ensuite, il y a une disposition qui a été insérée. C'est un souhait qui a été inséré dans le communiqué, à savoir, il serait souhaitable d'organiser les élections législatives d'ici fin novembre. Et vous avez bien fait de rappeler que ces élections sont tributaires des réformes qui seront organisées. Donc voilà, de manière générale, ce qui s'est passé ce mercredi à Lomé, et les chefs d'État sont rentrés chez eux. Maintenant, on verra la suite avec la conférence des chefs d'État qui se tiendra d'ici un mois.
Est-ce qu'on peut dire finalement que les deux médiateurs, hein, ghanéens et guinéens, se sont déplacés à Lomé, je dirais, pour marquer un moment politique, je dirais trivialement, juste pour la photo?
Non, pas forcément. C'est pas forcément pour la photo. Je pense que il y a quand même eu des discussions. Le président togolais Faure Gnassingbé a été écouté plusieurs fois et les deux présidents l'ont ramené même à l'hôtel de Sétif parce qu'il n'était pas directement impliqué dans les discussions. Il a accueilli les deux présidents à l'aéroport, il les a conduits à l'hôtel, il est retourné chez lui. Mais lorsque les discussions où les discussions séparées étaient un peu bloquées, il est revenu à l'hôtel pour un tête-à-tête avec les deux autres présidents pendant une heure. Mais je pense que fondamentalement, les chefs d'État et les médiateurs ont laissé les questions de fond, à savoir le problème de 2020, parce que c'est de ça qu'il s'agit, la question de la transition, et puis tout le reste contentieux. Je vais laisser ces problèmes-là à l'appréciation des autres chefs d'État de la conférence de la CEDEAO. Donc, ces problèmes de fond n'ont pas fait l'objet aujourd'hui d'une clarification de la part des médiateurs, mais visiblement, ces médiateurs ont recueilli les propositions de chaque camp et ces propositions seront analysées. Et là, on ne peut pas dire qu'ils sont juste venus pour les photos. Je pense qu'il y a un travail de fond qui a été fait, même si tout n'a pas été dit dans le communiqué final.
Alors, les questions de fond dont vous parlez, évidemment, il y a les questions qui sont pour l'instant, je dirais, les plus sensibles, hein, notamment le retour à la constitution de 1992 et le départ du pouvoir de Faure Gnassingbé à l'issue de son mandat. Ça, ce sont les questions les plus sensibles. Est-ce que des compromis ou des concessions sont possibles sur ces points, puisque les médiateurs attendent des concessions de la part des deux parties en conflit?
Oui, pour le moment, les deux parties, l'opposition campe sur ses positions, à savoir le retour de cette constitution-là, pas dans sa forme intégrale. Oui. Il y a cinq articles fondamentaux qui sont au cœur du contentieux, notamment les pouvoirs du président de la République, les pouvoirs du premier ministre. Et donc, ces articles-là, l'opposition veut qu'ils soient rétablis dans leur forme originelle. Et puis, l'opposition tient à ce que le président actuel qui est dans son troisième mandat puisse partir avant la fin de leur mandat. Est-ce que ce serait acceptable par les autres chefs d'État? Pour le moment, on n'en sait rien parce que en Afrique, généralement, lorsque le chef d'État sont médiateurs dans d'autres crises. Ils gèrent cette crise aussi en regardant ce qui se passe dans leur propre pays, parce que si demain on écoute le mandat du président togolais, peut-être Alpha Condé peut craindre que la même chose arrive dans son pays ou un autre président de la région. Oui. Mais le point de fixation véritable, c'est 2020. Oui. Et là, l'opposition essaie de faire comprendre aux médiateurs qu'après 38 ans du père et 15 ans du fils, oui. Il est maintenant temps qu'on tourne la page de ce long règne de 50 ans. Oui. Mais les partisans du pouvoir disent non, que les tests permettent à leur champion d'être encore candidat. Oui. Mais fondamentalement, le problème du Togo n'est pas un problème juridique, ce n'est pas une question de tests, mais c'est un problème moral.
C'est ça.
Et c'est un problème d'éthique. Oui. Est-ce que c'est normal qu'une seule famille puisse confisquer le pouvoir pendant 50 ans dans ce qui apparaît comme une république, à travers des coups d'État, des coups de force, des élections truquées. Oui. Donc, ce n'est pas un problème de droit, ce n'est pas une question de dire mais la Constitution lui permet d'être candidat, mais c'est une question de morale. Et c'est sur cette ligne de défense que l'opposition est actuellement. Mais les chefs d'État craignent que si le problème du Togo n'est pas résolu, des troubles unilatéraux peuvent entacher toute la région, parce que le Togo, c'est juste un pays, un couloir, mais qui dessert beaucoup de pays.
Bien
et
sûr.
Donc, le Ghana craint que l'instabilité au Togo puisse avoir des conséquences au Ghana, le Burkina de même, et puis le Bénin de même. Et donc là, fondamentalement, la CEDEAO est au pied du mur. On sait ce que la CEDEAO va vous faire en tout temps au Burkina, et le peuple burkinabé s'est véritablement organisé pour faire échec à une mission à l'époque qui avait été pilotée par Yahya Boné, le président Macky Sall.
Oui.
Alors je pense que ces chefs d'État de la CEDEAO ont certainement tiré les leçons de cette mise en voiture au Burkina et vont appréhender le problème togolais avec beaucoup plus de réalisme.
Merci Ferdinand. Merci Ferdinand Haïté. On va se tourner vers notre grand témoin Maddy Ali, qui va nous faire part de son commentaire. En tout cas, quel regard vous posez, vous, Maddy Ali, depuis les Comores sur cette crise togolaise? Crise qui dure quand même depuis plusieurs années, évidemment, qui a connu une intensification nouvelle depuis août dernier.
Je suis vraiment triste d'apprendre que le Togo va aussi connaître une nouvelle crise. Vous savez très bien qu'une fois que les pays africains veulent décoller d'une façon économique, il y a toujours de nouvelles crises qui se créent. Donc, je regrette que le Togo est un pays qui a connu, bien sûr, des crises, qu'il renoue encore des crises pareilles, des crises politiques encore. J'espère que les autorités togolaises prennent conscience, parce que c'est une fois qu'il y a des crises, c'est surtout la population qui souffre, et c'est le bas peuple qui souffre. Donc j'espère que les autorités togolaises finiront par prendre conscience et que la raison l'emporte au lieu de vouloir s'éterniser au pouvoir ou vouloir saccager. Je suis avec attention ce qui se passe, parce que c'est la même situation qu'ici. Les partis politiques, en voulant manifester, montrer leur mécontentement, ils sont tabassés, ils sont mis en prison, et c'est vraiment dommage pour notre continent.
Merci.
Et surtout un pays comme le Togo qui doit quand même, oublier les moments difficiles, les moments de crise pour décoller économiquement.
Très bien. Merci beaucoup, Maddy Ali, pour ce regard depuis les Comores. On va conclure, Ferdinand Haïté, par ces commentaires de l'opposition au lendemain de cette rencontre avec les médiateurs ghanéens et guinéens. Brigitte Adjamagbo Johnson, coordinatrice de la coalition des 14 partis de l'opposition, les C14, a déclaré cette semaine donc que, je cite, « l'alternance au Togo n'est pas à marchander car le peuple est décidé à rompre avec le statu quo ». Fin de citation. Autre commentaire, celui de Nathaniel Olympio, président du parti des Togolais, qui estime lui que le risque de voir le pays sombrer dans la violence est élevé si Faure Gnassingbé ne quitte pas de lui-même le pouvoir. Bien entendu, il faut dire que les partisans du pouvoir ne partagent pas du tout cette opinion. On voit bien quand même, Ferdinand Haïté, pour conclure, que la question de l'alternance est au centre de ce dossier.
C'est la question de l'alternance au centre de ce dossier, pour la simple raison que Vous savez, Francis, le Togo est le seul pays de l'Afrique de l'Ouest à n'avoir pas connu d'alternance depuis 50 ans.
C'est ça.
Ce n'est pas une seule même famille. Et c'est une anomalie dans l'espace CDAO. Et la Gambie et le Togo étaient les derniers zéros. Le zéro de la Gambie a sauté. Et le Togo, c'est quand même un cas qui est une gangrène qui risque de contaminer les autres pays de la sous-région. Donc, il est important aujourd'hui que la CDAO puisse œuvrer pour une alternance pacifique au Togo et faire comprendre aux gouvernants actuels qui se sont imposés à la tête du pays, parfois par des élections contestées, qu'il est temps d'accepter le jeu démocratique, les élections libres et transparentes, oui, plutôt que les coups de force électoraux, tout ça. Donc je pense que la CDAO a un rôle aujourd'hui à jouer pour harmoniser l'espace régional. Tous les pays ont connu l'alternance, il n'y a que le Togo. Et donc, faire comprendre au gouvernement actuel que la période où il y a des présidents sans vie, où il y a des présidents sans limite, est dépassée. Et pour le bien de la région, il faut régler vraiment le problème du Togo dans toute sa complexité, parce que le problème est complexe. Ce n'est pas seulement un problème de pouvoir, mais il y a d'autres aspects de ce pouvoir. Oui. Il y a la question de l'armée qu'il faut régler. Oui. Il y a les questions de il faut rassurer les gens. Et donc, je pense que le travail qui est en cours est difficile, parce que ce n'est pas facile de tourner la page d'un régime de 50 ans. Mais il faut que les présidents africains prennent conscience. Et Alpha Condé l'a dit, on lui tire le chapeau, qu'il ne soit pas un syndicat de chefs d'État qui se soutiennent dans quoi que ce soit. Je pense que c'est la première fois qu'on entend
un président dire ça.
Sortir une phrase pareille. Oui. Et c'est un message qu'il adresse, je pense, à ses homologues en disant, mais on ne peut plus se soutenir dans le mal, on ne peut plus être solidaire dans le mal. À un moment donné, il faut accepter d'avancer. Et je pense que la question togolaise sera débattue fin juillet, mais avant fin juillet, je pense que la visite du président Macron à Abuja, le Togo sera aussi au cœur de ce sujet entre le président nigérien qui suit de très près la question togolaise et le président français qui s'est d'ailleurs prononcé récemment suite à une interpellation d'un citoyen togolais au Canada.
Merci Ferdinand Haïté. On va passer au troisième sujet de cette édition sans transition avec vous Ferdinand Haïté et avec le grand témoin Madi Ali qui est avec nos téléphones depuis les Comores. Nous allons parler du Zimbabwe. Samedi dernier, lors d'un meeting politique du président Emmerson Mnangagwa en vue de la prochaine présidentielle du 30 juillet prochain, l'explosion d'un engin non encore identifié a provoqué la panique au sein d'une immense foule réunie dans un stade de Bulawayo. Bilan, 2 personnes tuées et des dizaines de blessés. Le président Mnangagwa est sorti indemne de ce qui a été qualifié d'attentat. Et alors que les faits n'ont pas été revendiqués, le chef de l'État a accusé les partisans de l'ancienne première dame, Grace Mugabe, d'avoir fomenté cet attentat. La question est pour vous, Madi Ali. Quelle première réflexion vous inspire cet attentat dont le monde opératoire est quasiment inédit dans ce pays? On est à la veille d'une élection. Est-ce qu'il faut s'attendre à une montée des périls au Zimbabwe lors des premières élections? Il faut dire que ce sont les premières élections de l'ère post-Mugabe.
Absolument. Nous avons applaudi, tout le monde a applaudi après le départ de Robert Mugabe. Nous avons cru que le Zimbabwe va ouvrir une nouvelle page. Mais ce que je dis, il faut absolument que le service de renseignement, il faut que la justice prenne ses responsabilités pour pouvoir identifier les auteurs de cet attentat. Est-ce que c'est pas possible, puisque c'est pendant une campagne électorale qu'un cas pareil se produit, c'est vraiment malheureux. Donc il faut absolument que les autorités compétentes, que ce soit le service de renseignement, la gendarmerie et la justice fassent ce travail pour qu'il y ait un apaisement au sein de la population, puisque ça c'est sûr que la population est paniquée. Oui. Prochainement, quand il y aura un meeting, ça c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui n'oseront pas prendre part, alors qu'il faut absolument que chacun puisse montrer, puisse choisir librement. Donc, ce que je crains, c'est que cette situation peut apeurer une frange de la population, et ce qui est vraiment dommage.
C'est vrai que le président Mnangagwa n'a pas attendu l'histoire de l'enquête avant d'accuser les partisans de l'ancienne première dame Grace Mugabe d'être à l'origine ou les auteurs de cet attentat à Ferdinand Haïté. Et alors même que, voilà, il faut dire que Mnangagwa semble confirmer, en accusant clairement les partisans de Grace Mugabe, il semble confirmer que finalement... il y a comme ça, je dirais, en fait, toutes les tensions, je dirais, qu'il y a encore au sein de ce parti, la ZANU-PF, ce parti qui dirige le pays depuis plusieurs décennies maintenant, qui était le parti de Mugabe, qui est toujours d'ailleurs le parti au pouvoir. Est-ce que, après le départ forcé de Mugabe en novembre dernier, il faut craindre désormais je veux dire, des règlements de compte au sein de ce parti?
Non, mais ce que je peux conseiller au chef de l'État, c'est de donner confiance.
Là, c'est Madi Ali qui parle, je crois. C'est pas Ferdinand Haïté, mais allez-y, Madi Ali.
C'est si je parle. J'ai dit que il faut, je conseille au chef de l'État de donner confiance aux instances concernées.
Oui.
Il faut que les services de renseignement, il faut que les gendarmeries, il faut que les brigades de recherche, il faut que la justice font leur travail. Donc, je ne suis pas tout à fait content que le président déclare immédiatement qu'il s'agit de tel ou tel,
oui.
Alors qu'il y a des services concernés.
Oui.
Les services concernés doivent faire leur travail, faire leur investigation, et identifier les auteurs et les commanditaires de cette affaire pour que la justice fasse ce travail.
Oui.
Donc, accuser quelqu'un directement, même si ce sont ceux qui étaient au pouvoir avant, je crois que c'est prématuré.
Le président Mnangagwa a dit très clairement, je le cite, « Mon intuition sans avoir de preuves est que les personnes qui sont mécontentes du nouveau gouvernement sont le G40 ». Alors le G40, c'est la génération, c'est le mouvement Génération 40, une faction au sein du parti au pouvoir, la ZANU-PF, favorable cette faction à Grace Mugabe. Et le président Mnangagwa conclut, enfin il déclare également que, voilà, il dit ceci, « C'est la conclusion logique et raisonnable qu'on peut tirer. Je promets de traquer ces criminels. Une fois qu'on les aura arrêtés, on pourra déterminer l'étendue de leur réseau. » Fin de citation. Fin de réalité, on voit bien l'ambiance quand même, le climat au sein de ce parti, hein, la ZANU-PF. C'est le
oui,
temps,
tout à fait.
C'est le temps des règlements de compte.
Oui, je partage la position de notre ami Madi. Le président Mnangagwa aurait pu laisser la justice faire le travail plutôt que de se presser d'accuser Grace Mugabe. Mais cela dénote quand même de la tension qu'il y a à la ZANU-PF, une tension qui se justifie par le fait que pendant longtemps, le système Mugabe a affaibli totalement l'opposition. Aujourd'hui, la figure historique de l'opposition a disparu, il est décédé. Et donc, les luttes se sont transportées aujourd'hui au sein de la ZANU-PF.
C'est
et donc, ceux qui n'ont pas supporté l'éviction de Robert Mugabe, notamment le clan qui entoure sa femme, est toujours à la manœuvre. Et il est à craindre aujourd'hui que tous ces gens qui étaient ensemble depuis des années et qui ont aussi acquis les moyens de pouvoir, qui ont de l'argent, qui ont leur réseau, il est à craindre que si le président actuel ne travaille pas à réconcilier l'ensemble de ces factions-là au sein de la ZANU-PF, il est à craindre quand même que nous évoluons vers l'escalade. Et donc, c'est souhaitable aujourd'hui que le président Mnangagwa ne se lance pas dans une chasse aux sorciers ou dans des règlements de compte. Il faut écouter les autres partis, les autres factions qui sont dans le parti ZANU-PF et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut régler les problèmes pour éviter d'aller vers des situations de ce genre. Et ce mode opératoire qu'on a vu, c'est quand même une première fois au Zimbabwe qu'on assiste à un attentat en plein meeting de cette manière. Et donc, il est à craindre que d'autres actions de ce genre puissent se répéter. C'est parfois des actions désespérées d'un clan qui veut se faire signaler. Il faut essayer de régler ces problèmes plutôt que de lancer des accusations en lieu et place de la justice.
Madi Ali, on voit bien que le président Mugabe, Robert Mugabe, n'a pas pris sa retraite, hein, parce qu'il est encore très offensif, en tout cas dans ses propos. Il a accusé l'actuel gouvernement d'avoir fomenté un coup d'État contre lui. Est-ce que on peut encore, je veux dire, est-ce que Mugabe peut encore agir aujourd'hui dans le contexte politique zimbabwéen? Quel peut être le poids de cette action encore aujourd'hui dans sur la scène politique zimbabwéenne, Madi Ali?
Ah non, je crois que M. Mugabe doit prendre sa retraite. Il a quand même des gens, au sein de son parti, il y a des gens qui peuvent prendre le relais. Donc, à son âge, c'est pas possible, sinon il risque de dire du n'importe quoi. Vous savez, à cet âge-là, c'est pas possible qu'il puisse aussi prendre des responsabilités politiques. Je crois que la bande Mugabe, la bande Awad, ce sont des gens qui doivent quand même prendre la retraite puisqu'ils ont des enfants et ils ont, que ce soit des enfants biologiques ou des enfants politiques qui doivent prendre le relais.
Oui.
Je crois que ça serait maladroit s'ils essaient aussi de vouloir aussi retourner aux affaires politiques. C'est regrettable aussi. Ils ne donnent pas confiance à ses successeurs.
Oui. Alors, pour terminer, Ferdinand Haïté, on voit bien que c'est encore la ZANU-PF qui domine fortement la scène politique zimbabwéenne. On est quand même dans un contexte préélectoral. Il y a de vives tensions encore aujourd'hui entre le pouvoir et une opposition qui met en garde contre de nouvelles fraudes électorales lors de la prochaine présidentielle du 30 juillet prochain. Je veux dire, au-delà du départ de Robert Mugabe, l'absence d'alternance réelle, d'une certaine manière, fige encore le pays, je dirais, dans je ne dirais pas dans l'ère Mugabe, mais en tout cas dans le système ZANU-PF, avec évidemment cette tension, ces règlements de compte.
On aura assisté juste à une révolution de palais. La PF a encore les mains, encore tous les leviers du pouvoir. Et il risque de les garder le plus longtemps possible parce que l'opposition est faible aujourd'hui, elle n'a pas de leader.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas un leader dans l'opposition qui peut défier le pouvoir. Donc, il est clair que le président Mnangagwa sera certainement élu et il a fait toute sa vie à l'ombre de Mugabe. Il a le même reflet que le président Mugabe. Et donc, ce n'est pas évident que dans les mois, les années qui viennent, le Zimbabwe s'ouvre totalement au jeu démocratique. Et aux questions des libertés, des droits de l'homme et tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est clair que le président Mnangagwa va continuer dans le même sens et gérer le pays d'une main de fer comme ça a été fait à l'époque, vous savez.
Oui.
Maintenant, il faut. Rien n'aura fondamentalement changé, sauf le départ de Mugabe et peut-être la neutralisation du clan de sa femme.
Merci. Merci, Ferdinand. On va écouter à présent les messages de des internautes, de nos auditeurs sur Internet. Messages recueillis et livrés à présent par Sandra Bassabam.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, @débat BBC Africa et sur notre page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Francis, bonjour à tous. Voici les réactions des internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sur les Comores, Mifis Kiti se demande pourquoi en Afrique les dirigeants cherchent toujours à réviser la constitution une fois au pouvoir. Et notre fidèle auditeur se désole d'ailleurs du fait que cette pratique soit d'actualité aux Comores avant de conclure que la révision de la constitution nuit toujours aux opposants. Sur le Togo, Aboubakar Telibali demande aux grands témoins si avec la fermeté des uns et des autres, il y a un espoir de résolution de la crise togolaise. Moussa Ibn Boussa Abdoum abonde dans le même sens et s'interroge sur l'opportunité d'une médiation de la CEDEAO. Peut-elle apaiser les tensions actuelles? Didos Didier Afodo se demande pour sa part pourquoi les dirigeants africains ne respectent pas leurs engagements, surtout en ce qui concerne les accords. Pankas Lovu plus tranchant estime que les médiateurs de la CEDEAO font du théâtre. Pour lui, leurs actions ne vont déboucher sur aucun résultat plausible pour une sortie de crise. Et notre fidèle auditeur de conclure que si le président Faure Gnassingbé est toujours en place, c'est parce que, dit-il, le peuple togolais n'a toujours pas décidé de prendre son destin en main. Enfin, sur le Zimbabwe, Charles Bazema souhaite savoir pourquoi le président Emmerson Mnangagwa accuse l'ex-première dame Grace Mugabe d'être l'instigatrice de l'attentat. Il demande au président de laisser la police faire son travail. Merci à tous. Merci de nous suivre sur notre page Facebook à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci Sandra. C'était Sandra Bassabam. Il me reste juste le temps de vous remercier, Madi Ali, porte-parole de l'opposition au Comores, d'avoir accepté notre invitation. On suivra bien sûr, Madi Ali, l'évolution de cette crise politique en cours dans votre pays aux Comores. Merci en tout cas d'avoir été là, de nous avoir apporté quelques éclairages pour mieux comprendre l'actualité de votre pays. Merci également à notre confrère Ferdinand Haïté qui est avec nous au téléphone depuis Lomé, directeur de la publication du journal L'Alternative. L'émission a été réalisée à Paris par Valentin Blanc. Une veille technique à Dakar assurée par Noël Akapo, chargé de production cette semaine, Sandra Bassabam. Vous pouvez écouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine avec Liliane Yacha et moi-même pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bon week-end à toutes et à tous à l'écoute de nos radios partenaires. À bientôt.